Pas la Bible, on n'a pas de raison d'être là, et donc on veut pouvoir ouvrir la parole de Dieu, l'ouvrir au début, l'ouvrir au milieu, l'ouvrir à la fin dans les partages aussi que nous avons les uns avec les autres, l'ouvrir l'après-midi avec les jeunes, et donc c'est notre raison d'être, d'ouvrir cette parole pour voir ce que le Seigneur nous enseigne. Donc Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 6. Et nous allons lire à partir du verset 19, Matthieu chapitre 6, à partir du verset 19. Matthieu 6, verset 19. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres ? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comme croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ceci est la parole de Dieu. Donc nous avions vu la semaine dernière quelques versets du 19 au verset 24 où il était question un peu du matérialisme, de la recherche des trésors de ce monde, de la richesse et du fait de s'amasser des trésors sur la terre, combien c'était néfaste et que le Seigneur encourageait plutôt à s'amasser des trésors dans le ciel. Et terminer avec le verset 24 en disant que nul ne peut servir deux maîtres, que l'homme sert toujours un maître. Ça ne veut pas dire que l'homme ne peut servir aucun, il sert l'un ou l'autre. Hein. Mais il ne peut pas servir en même temps les deux, c'est une impossibilité. Et donc le Seigneur dit que nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et le Seigneur s'adresse, on le rappelle ici, à ses disciples. Et donc, c'est une tentation aussi pour le disciple de Christ d'être attiré vers les richesses et de faire des richesses l'objet de sa recherche. Donc, ce qu'on appelle la cupidité, hein, chercher à amasser vraiment les richesses et les biens de ce monde. Et puis, à partir du verset 25, il dit « C'est pourquoi ?» Donc, ce qu'il dit ici est lié avec ce qui vient d'être dit avant. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. Ainsi, Il montre ici que l'inquiétude que l'on a vient du fait, enfin plutôt la recherche que l'on fait souvent pour s'amasser des biens vient d'une inquiétude hein, qu'il y a, qui est présente dans le cœur ici. Et ce passage qui va du verset 25 jusqu'au verset 34 parle essentiellement de l'inquiétude des enfants de Dieu et du fait que le chrétien, le disciple, ne doit pas être inquiet, ne doit pas développer l'inquiétude. Alors j'ai intitulé ce message ce matin « Le disciple et l'abolition de l'inquiétude ». Comment le Seigneur nous appelle ici à abolir de notre vie, de notre cœur, l'inquiétude. Qu'est-ce que l'inquiétude ? Vous avez peut-être votre idée sur l'inquiétude. Essayez de penser à cela. Qu'est-ce que vous donneriez comme définition de l'inquiétude ? Moi, j'ai lu dans le dictionnaire, dans le Larousse, et j'ai trouvé que c'est un état affectif pénible causé par la crainte et l'appréhension par l'appréhension et par l'incertitude. Donc, je relis état affectif pénible causé par la crainte, l'appréhension et l'incertitude. Le fait de ne pas savoir ce qui va se passer parfois peut produire en nous un certain état de affectif, une émotion de crainte. Et dans la Bible, le sens du verbe qui est utilisé pour inquiétude, c'est être. Il y a deux sens. On peut donner le sens de prendre soin. Hein. Par exemple, quand Jésus dit à la fin du passage que nous avons lu. Verset 34, il dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin. » C'est la même chose que « inquiéter », c'est le même mot, le « aura soin », c'est la même signification, c'est le même mot original qui a donné le mot « inquiéter hein, ». Ici. Donc, on peut le prendre comme « avoir soin », s'inquiéter, c'est « avoir soin de », mais aussi, c'est être tiraillé entre plusieurs directions, ne pas savoir quoi faire, être dans une espèce de confusion. Et c'est ça que Jésus traite ici, je crois, c'est le fait de rechercher les richesses, l'amas des richesses, parce qu'on est incertain sur l'avenir, on est tiraillé par ceci d'un endroit ou d'un autre. Dieu dit cela, c'est vrai, mais en même temps, je vois la situation réelle et je suis tiraillé par là. Donc, on pourrait dire que l'inquiétude révèle un état d'esprit instable qui se trouble à cause peut-être d'une visibilité insuffisante sur l'avenir. Et je crois que c'est contre cette disposition-là que le Seigneur interpelle ses disciples et qu'il nous interpelle. Alors, c'est une question, l'inquiétude est une question qui est pertinente hein, de nos jours. J'ai lu que dans un article, Le Figaro, pour ne pas le citer, qu'en 2017, les Français ont été désignés champions du monde de l'inquiétude et du repli sur soi. Hein. Donc, je crois qu'on nous affuble, nous, Français, de beaucoup de choses. Hein. Voilà, on est les champions du monde pour râler, les champions du monde pour ceci, pour frauder. Maintenant, on voit qu'on est les champions du monde en ce qui concerne l'inquiétude et le repli sur soi. Mais je crois qu'il n'y a pas de peuple. Hein. Très, très honnêtement, les gens mesurent ce qu'ils veulent. Mais selon la Bible, il n'y a pas de catégorie de peuples sur la terre qui sont plus ou moins inquiets. L'inquiétude est quelque chose qui atteint tous les êtres humains. Nous sommes tous susceptibles d'être inquiets. Et les chrétiens même, les disciples, sont susceptibles d'être inquiets, sans quoi le Seigneur ne mettrait pas ici cette exhortation, ce commandement à rejeter l'inquiétude. L'homme moderne, on pourrait dire, est inquiet, est un homme qui s'inquiète pour tout, hein. Et il s'inquiète pour son travail, il s'inquiète pour sa retraite, on s'inquiète pour beaucoup de choses. Et je crois que beaucoup de situations que nous vivons ont tendance à nous jeter dans l'inquiétude. Alors on voit beaucoup de gens qui arrivent maintenant de pays étrangers, des migrants, et on s'inquiète pour cela. Je discutais avec un voisin qui me faisait remarquer comment on votait dans notre petit village. On vote apparemment beaucoup extrême droite et il me dit « Mais je ne comprends pas, les gens s'inquiètent pourquoi hein? Ils ont peur alors qu'il n'y a rien qui se passe ici. » Et vous allez dans des coins où, de France, pareil, hein, où les gens vivent relativement en paix, ils ne connaissent pas les problèmes d'immigration, ni d'insécurité, ni où c'est relativement calme et les gens ont quand même développe quand même des inquiétudes. On est inquiet pour ce que l'on a. On est inquiet de perdre peut-être de l'éventualité de la perte de ce que l'on a, de confort, de la sécurité que l'on a. Donc c'est une question qui nous concerne tous. Et en tant que chrétien, souvent on est inquiet pour beaucoup de choses. On peut être inquiet même pour son église. On est inquiet, on ne comprend pas, on dit est-ce que ça va tenir, est-ce que ça ne va pas tenir. Des fois, il y a beaucoup, toutes sortes de questions que l'on peut se poser. On est inquiet parfois dans notre propre marche avec le Seigneur. Parfois, on a des doutes qui s'installent et cela nous plonge aussi dans beaucoup d'inquiétudes. Donc, les chrétiens aussi, je crois qu'on pourrait trouver beaucoup d'autres causes, sont inquiets, peuvent être inquiets en tout cas dans leur vie. Mais Jésus relève ici une chose dans ce passage. Il nous montre que l'inquiétude pour le disciple de Christ, pour le citoyen du royaume, est un non-sens. Et même, il dit que l'inquiétude est à abolir complètement chez le chrétien. Dans son enseignement donc, sur les normes du royaume, il montre que l'inquiétude est un péché même. Et il exhorte le disciple à rejeter, à repousser cette attitude de confusion, de tiraillement qui peut exister dans ses pensées, parce que cela n'est pas conforme aux normes pour les citoyens du royaume. L'enfant de Dieu ne doit pas être inquiet et anxieux. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il est insouciant. On fait la différence entre le fait d'être insouciant et le fait d'être prévoyant, hein, inquiet. Ne pas s'inquiéter, ça ne veut pas dire, voilà, je m'occupe plus de rien, je ne fais plus rien, je ne m'occupe pas de mes enfants, voilà, j'attends que la nourriture m'arrive sous la table, je ne vais pas travailler. Non, il y a des choses à faire. Hein. On doit, la Bible nous encourage à être prévenant, à être prévoyant. Hein. Il nous exhorte à aller même vers la fourmi et à considérer les voies de la fourmi, à voir comment la fourmi travaille, comment elle amasse en prévision d'eux. Et dans le Proverbe 6, verset 6, vous pouvez trouver cela, nous sommes encouragés à observer la fourmi et à même à imiter ses voies, c'est-à-dire à travailler, à mettre de côté. Donc, être prévoyant, c'est une chose que le Seigneur recommande. L'apôtre Paul disait à Timothée que si un homme, quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Donc, un homme doit s'occuper de sa famille. Il doit prévoir, il doit projeter des choses, il doit s'arranger pour que ses enfants puissent avoir de quoi subvenir à leurs besoins. Donc, il y a si vous voulez, s'inquiéter dans le sens prendre soin est une bonne chose, prendre soin d'eux. Mais s'inquiéter dans le sens que Jésus décrit ici est une chose que le chrétien doit rejeter. Il va montrer ici pourquoi. Donc il énonce un principe général et il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce de quoi vous serez vêtu ici. Donc ça c'est, on pourrait dire, l'exhortation générale qui revient plusieurs fois dans ce passage. Plusieurs fois, il est question, si vous avez lu attentivement, de ne pas s'inquiéter. Verset 28, c'est pourquoi. Il dit, et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Verset 34, il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Donc à chaque fois, il y a cet appel à ne pas s'inquiéter. Ça, c'est, on pourrait dire, le principe général, la grande exhortation que le Seigneur lance ici. Mais il va montrer à ses disciples comment rejeter cette inquiétude. En fait, comment avoir confiance en Dieu, parce que c'est de ce qu'il s'agit ici. Donc la première chose que on pourrait voir ici, c'est que Jésus attire l'attention de ses disciples, sous laquelle il attire leur attention, c'est sur les vérités qui concernent Dieu. Comment rejeter, comment repousser, comment abolir l'inquiétude? C'est en méditant les vérités sur Dieu, ici. Regardez notre texte, ici on reprend donc Matthieu chapitre 6, verset 25, il dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. » Et il ajoute « La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, Il ne sème ni ne moissonne et il n'amasse rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que ici? Donc le grand but de ce passage, quoi, est de recentrer les disciples sur Dieu. Recentrer sur Dieu. La section précédente se terminait, je vous la rappelle, avec « Nul ne peut servir deux maîtres, Dieu ou maman », d'accord ? Mais ceux qui servent Dieu doivent vraiment avoir leur pensée sur Dieu. Et l'inquiétude entraîne certainement une perte de réalité concernant Dieu. Et ici, Jésus amène ses disciples à méditer sur Dieu. Premièrement, il montre que Dieu est l'auteur de la vie. Dieu, qui est l'auteur de la vie, on pourrait dire, s'occupe des moyens de maintenir la vie. La vie n'était pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Vous êtes anxieux pour la nourriture qui maintient la vie et pour le vêtement qui couvre le corps, mais avez-vous pensé à la vie elle-même et au corps lui-même, on pourrait dire. Et il dit, c'est Dieu qui a pourvu ce corps, c'est lui qui a donné la vie. Et il ne va pas laisser à l'abandon ce qu'il a fait, ce qu'il a créé, ce qu'il a donné. Et Dieu, en fait, ce que Jésus dit ici, c'est que Dieu veille à la subsistance de ce qu'il a créé. La Bible dit hein, qu'il crée la terre, il crée le monde, et puis bien, il soutient toute chose, il soutient ce monde par sa parole. Donc le Dieu qui crée, c'est le Dieu qui continue à sauvegarder, à faire subsister ce qu'il a créé. Et c'est ce que Jésus dit ici. Il dit en fait ce que Dieu a fait plus que la nourriture. Vous vous inquiétez pour la nourriture qui maintient la vie au corps. Vous vous inquiétez pour les vêtements qui couvrent le corps. Mais Dieu, il a fait plus que cela. Il a créé la vie. Il a fait plus que le vêtement. Il a créé le corps. Et si Dieu a fait le plus, Dieu peut faire le moins. C'est un peu le principe que Jésus développe ici. Dieu qui a fait ces choses, corps, comment ne va-t-il pas s'occuper de ce qu'il a créé? Dieu est-il quelqu'un qui va crier pour abandonner sa création? Absolument pas ici. Et cela nous fait réfléchir parce que de nos jours, on mène beaucoup de combats pour sauvegarder la planète. Hein? Et nous sommes devenus les sauveurs de la planète. On va nous empêcher de rouler avec tel type de carburant, après nous avoir assommés pour acheter tel type de véhicule. On va nous empêcher de nous chauffer au bois avec la cheminée, parce que voilà, ça envoie des particules, etc., dans l'atmosphère. Et on sera taxé, et je m'attends à beaucoup de choses. Hein, on ne sait pas ce qui va se passer avec tous ces gouvernements où l'écologie est devenue la grande religion, où la planète est devenue ce qu'il faut sauver. Hein. Dieu, c'est lui qui garde sa planète. C'est pas, nous n'avons aucune capacité pour garder la planète, d'accord, en vie. Nous n'avons pas cette possibilité. Si Dieu voulait que ça disparaisse à l'instant, ça disparaîtrait. D'accord. Et bien souvent, un seul cataclysme naturel fait beaucoup plus que l'ensemble des pollutions que nous pouvons apporter sur la terre. Et on l'oublie. Donc, ce que Jésus dit ici, il dit, Dieu a créé la vie, Dieu a créé le corps, et Dieu va s'occuper de les maintenir. Hein? Il va s'occuper de les maintenir. S'il a fait cela, ça n'est pas pour abandonner. Et c'est ce principe, il est présent dans l'Écriture. Et une illustration se trouve dans Romains chapitre 8, où l'apôtre Paul parle, il parle de Dieu, il dit « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Vous voyez, il dit, voilà ce que Dieu a fait, il a fait le plus, le maximum. Il dit, comment pouvez-vous penser qu'il ne nous donnera pas les choses qui sont nécessaires en Jésus-Christ? Bien sûr, il les donne en Jésus-Christ, c'est ce qu'il dit ici. Mais voilà, il n'a pas épargné son fils, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est-à-dire, il faut méditer sur l'œuvre de Dieu, sur ce qu'il a fait, pour saisir comment il va prendre soin de nous et abolir de nos cœurs l'inquiétude. Dieu ne s'arrête pas en chemin. Moi, je fais beaucoup de choses chez moi. mais il y a beaucoup d'œuvres inachevées. Hein? Ma femme s'en plaint des fois, et elle me dit souvent un verset biblique qui dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Hein? » Elle dit « J'aurais mieux fait de ne pas la commencer du tout que de la commencer et laisser comme ça. Hein? » Mais Dieu n'agit pas ainsi. Car ce qu'il commence, il l'achève. C'est ce que l'apôtre Paul dit hein, dans Philippiens. Il dit « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. » Celui qui vous a créé un corps, eh bien, ira jusqu'au bout. Il continuera cette œuvre et le revêtira. Celui qui a créé la vie, il fera en sorte que cette vie subsiste. Donc, il donnera la nourriture. D'ailleurs, c'est ce que Dieu a dit dans la Genèse. Quand après le déluge, il y a dit, tant qu'il y aura, je crois, les moissons, le soleil, etc., il dit que voilà, l'homme aura de quoi manger. Et je lisais un article qui disait qu'on parle souvent de famine et du fait que voilà, il faut faire des économies parce que tout le monde n'aura pas à manger. Je dis, c'est pas juste. Il y a beaucoup de nourriture à certains endroits et pas du tout à d'autres. Mais il y a suffisamment pour que tout le monde puisse être nourri. Parce que c'est Dieu qui pourvoit aux besoins de cette planète. Ainsi, Dieu donne la vie et pourvoit aussi à la nourriture pour maintenir la vie, chers frères et sœurs. Il forme un corps et il pourvoit aussi aux vêtements pour le couvrir. Donc, Jésus attire l'attention sur cette réalité que Dieu, qui est l'auteur de la vie, s'occupe des moyens de maintenir la vie. Deuxièmement, une deuxième réalité, il dit que Dieu est impliqué auprès des moindres éléments de sa création. C'est une seconde vérité que Jésus présente ici. L'argument de Jésus est de montrer que si Dieu s'occupe avec un tel soin de ce qui est moindre dans sa création, ici, moindre importance, à combien plus forte raison il s'occupera de ses enfants. C'est ça le principe. Il donne deux illustrations pour cela. Il dit « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» Alors cette semaine, pendant que je méditais sur cela, j'ai un cerisier dans mon jardin. Il y a de belles cerises rouges. C'était pas tout. Maintenant, c'est presque violet. Donc c'est comme ça qu'elles sont les meilleures. Et je dis, tiens, j'espère que Patricia aura le temps d'arriver pour goûter à ces cerises. Et je regarde, il y a plein d'oiseaux qui viennent dans la... Et qui picorent les cerises, parfois les prennent, et puis c'est pas suffisamment mûr à leur goût, et les jettent par terre, et prennent d'autres. Et je viens, je les chasse. Et parfois je me dis, mais s'ils pouvaient parler, ils me diraient, ne sais-tu pas que Dieu nous nourrit aussi, hein? J'ai dit, c'est moi qui ai planté cet arbre, c'est moi qui l'ai arrosé quand il était tout petit, hein? Tu n'as rien fait. Et puis ils viennent là, et il y a des cerises tout au sommet de l'arbre, ils ne les mangent pas, ils mangent celles qui sont à hauteur d'homme, celles que je pourrais prendre en plus. Mais des fois, je pense à ce passage et dis, ça me montre comment Dieu prend soin de ces animaux. Ils ne s'occupent pas d'amasser, ils ne s'occupent pas de planter, ils ne s'occupent pas de semer. Et pourtant, ils sont nourris. Et la Bible nous dit de méditer sur ces choses, c'est-à-dire que de méditer sur le fait que c'est Dieu qui les nourrit. C'est ça qui est important ici. Ce n'est pas qu'ils se débrouillent et puis voilà, et puis par instinct, bon peut-être, mais je veux dire, ça, c'est quelque chose qui est naturel. Non, il dit, il faut considérer ces choses comme Dieu nourrit ces animaux. Et si Dieu les nourrit, il dit, avec la valeur qu'ils ont, est-ce qu'il ne va pas vous nourrir? Vous êtes des êtres humains créés à l'image de Dieu. Plus que cela, vous êtes, parce qu'il parle aux disciples ici, vous êtes ces enfants qu'il a rachetés. Et quand il parle aux chrétiens, ceux qu'il a rachetés par son précieux sang, il dit, s'il s'occupe ainsi des oiseaux, est-ce qu'il ne va pas s'occuper de ses enfants qu'il a créés? Et il prend une deuxième illustration, celle de la fleur. Il dit, ici, verset 28, il dit, « Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ?» Il dit, « Considérez comment croissent les lys des champs. » Vous voyez, je pense que Dieu a mis dans la nature des choses aussi, on a sa parole, mais il a mis aussi dans la nature des choses que nous puissions les regarder, méditer sur ces choses, même si on a besoin de cette parole qui nous indique comment interpréter les choses qui sont dans la nature, hein. On a besoin de la parole de Dieu, mais il faut faire cet effort de regarder, de méditer, de penser que c'est Dieu qui nourrit les oiseaux et que c'est lui qui habille, il dit ici, l'herbe des champs. Il dit, considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui sera demain jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Il dit, voilà, une herbe qui pousse, elle est magnifique. Il dit bien, cette beauté-là vient de Dieu. C'est Dieu qui a mis cette beauté dans cette fleur. Mais cette fleur, on la coupe et le lendemain, on la met au feu. C'est une plante passagère, d'accord ? Et il dit ici, Dieu s'occupe avec un soin de ce qui va disparaître le lendemain. Pourquoi pensez-vous qu'il ne va pas s'occuper de ceux qu'il a destinés à la vie éternelle ? Voyez ? Et c'est ainsi que Jésus pousse ses disciples à la réflexion. Là encore, il demande d'observer, de méditer et puis de tirer une conclusion. J'observe ce qui se passe dans la nature, je vois, je médite sur le fait que c'est Dieu qui fait ces choses, et puis je tire la conclusion que s'il agit ainsi à l'égard des plus faibles créatures de sa création, combien plus il agira avec beaucoup plus d'égard à propos de ses enfants qu'il a choisis et qu'il a destinés à la vie éternelle. Troisièmement, donc Jésus aussi, troisième réalité, on pourrait dire, que Jésus soulève ici et sur laquelle il attire l'attention des disciples, c'est que Dieu est votre Père céleste. Il dit au verset 26, il dit « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. » Et puis un peu plus loin, si vous lisez... au verset, que je le retrouve, voilà, au verset 32, il dit « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Donc, Jésus attire l'attention des disciples sur le fait que Dieu est leur Père céleste. Il n'a pas dit que c'est le Père céleste des oiseaux. Il dit « Il nourrit les oiseaux ». Il dit « Votre Père céleste nourrit les oiseaux ». Il ne dit pas « Leur Père céleste les nourrit ».« Votre Père céleste nourrit les oiseaux ». Et donc, il montre ici la relation qu'il y a entre Dieu et ses enfants. Dans tout le chapitre 6, on avait noté une fois, le Seigneur Jésus parle beaucoup de Dieu en tant que Père céleste. On va pas, si vous lisez à la fin du chapitre 5 déjà, et puis tout le chapitre 6 dans les exemples qu'il donne sur la manière de pratiquer la justice, sur l'aumône, sur la prière, sur le jeûne, à chaque fois il parle du Père céleste, votre Père céleste qui voit dans le secret. Il demande même de prier en commençant par notre Père qui est aux cieux. Et Jésus insiste dans tout le chapitre 6 sur ce caractère de Dieu comme le Père pour ses enfants. Et donc, ici, il les invite à penser à Dieu en termes de relation qu'il entretient avec ses enfants. De qui est-il Père ? Bien sûr, il est le Père de ceux qui sont ses enfants par la foi. Il n'est pas ici question de Dieu, le Père de toute l'humanité, ici. Il est question de Dieu, le Père de ceux qui ont placé leur confiance en lui, de ceux qu'il a rachetés. Tous les hommes sont créés par Dieu, tous lui appartiennent. Mais ici, dans cette relation que Jésus décrit, ici, cette relation n'existe qu'entre Dieu et les chrétiens et ceux qui sont ses disciples, de ceux qui sont véritablement ses enfants, de ceux qui ont reçu de son esprit. Parce que la Bible dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et la Bible dit que c'est par cet esprit que nous pouvons appeler Dieu notre Père. Et regardez ce que dit Romains chapitre 8, 12, entre les versets 12 et 21. Il est dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. » Vous voyez, ici on pourrait associer la crainte aux angoisses, à l'anxiété, à l'inquiétude. Il dit « Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Voilà, ici, hein. Et donc, il dit, cet esprit nous est donné pour que nous sachions que nous appartenons à Dieu et nous sommes avec lui dans une relation filiale. Et on n'a pas à s'inquiéter. Dieu n'est pas simplement le Dieu omniscient, mais il est notre Père. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit beaucoup méditer. Donc Jésus dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il dit, pourquoi vous inquiétez-vous? Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et donc ce n'est pas seulement, je le disais, en tant que Dieu omniscient qu'il connaît nos besoins. Il connaît toutes choses, donc il connaît aussi que nous sommes dans le besoin. Mais c'est en tant que Père qu'il connaît nos besoins. C'est-à-dire qu'il est prêt à pourvoir à ce besoin et qu'il est motivé par l'amour qu'un père a pour ses enfants. Et Jésus relève un petit peu cette pensée dans Matthieu 7, le prochain chapitre, versets 9 à 11. Il dit, « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? » Et il dit, « Si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Voilà. Il dit, « Le Père terrestre, malgré ses imperfections, les imperfections de son cœur et ses limites matérielles, cherche à donner de bonnes choses quand même à ses enfants. » Et il dit, « Pensez maintenant à votre Père céleste, qui est parfait en amour et tout puissant. Il n'est pas limité à moyens matériels et il n'est pas imparfait dans son amour. Il est parfait en amour et tout puissant. Est-ce qu'il ne fera pas davantage, beaucoup plus pour ses enfants? Alors pourquoi vous inquiéter? Je crois que l'inquiétude occulte cette réalité. Que Dieu, cette triple réalité que Jésus met ici en évidence, je crois, que Dieu qui est l'auteur de la vie, eh bien, il donnera aussi les moyens de maintenir cette vie. Que Dieu, notre Père céleste, et que le Dieu qui s'occupe des moindres de sa création, eh bien, s'occupera aussi de ceux qui ont beaucoup de valeur à ses yeux, ceux qui sont précieux à ses yeux, c'est-à-dire ses enfants. Ça, c'est donc le premier point de cette réalité sur cette méditation, si vous voulez, sur la vérité concernant Dieu. Et puis, deuxièmement, Jésus parle aussi de l'inquiétude en tant que telle et pousse ses disciples à saisir aussi des vérités sur l'inquiétude. Regardez au verset 27, il dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Parfois, nous disons « Moi, je ne peux pas faire autrement que d'être inquiet. C'est notre nature, je suis inquiet par nature et je ne peux pas changer ça. » Ah, Dieu dit « Abolition complète, interdiction pour le chrétien de s'inquiéter. » C'est ça qu'il dit. Hein. Il dit, ne vous inquiétez pas. Il ne dit pas, vous ne devriez pas vous inquiéter. Il dit qu'il ne faut pas s'inquiéter. Donc nous ne pouvons pas dire, c'est comme ça que je suis naturellement, je suis de naturel inquiet, je suis de naturel anxieux. Bien sûr, il y a des gens qui ont des tempéraments plus ou moins différents, c'est vrai, c'est vrai. Mais néanmoins, c'est le commandement du Seigneur, je ne peux pas dire autre chose. Et il nous dit que nous ne devons pas nous inquiéter. Premièrement, il ajoute ici que, donc, il nous donne quelques vérités sur l'inquiétude. L'inquiétude est stérile. L'inquiétude est stérile. Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? L'inquiétude ne produit rien. Vous inquiétez parce que vous ne savez pas si vous allez vivre encore quelques semaines ou quelques mois, quelques années, mais le fait de vous inquiéter n'ajoutera rien à cela. L'inquiétude est infructueuse et l'inquiétude ne produit absolument rien. C'est complètement stérile, dit le Seigneur. Et donc, on ne peut rien changer à une situation en s'inquiétant. Alors, les gens, parfois, nous avons tendance à nous inquiéter tellement pour ce qui va arriver, comment je vais payer la facture, et puis, etc. Et puis, on se fait beaucoup d'histoires de notre esprit, mais ça ne change rien à la situation. Ça ne fait pas avancer les choses que de s'inquiéter. Au contraire, la Bible dit même que ça peut causer des dommages, parce qu'il dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Ça, c'est dans le Proverbe 12, verset 25. Et donc, certains sont parfois, souvent, très inquiets quand ils prennent l'avion. Hein. On a une tante qui ne prend plus l'avion parce qu'elle a peur, tellement peur que ça tombe, qu'elle dit qu'elle est mieux, sur terre. Hein. Donc, il y a des gens comme cela, hein, inquiets, ils sont... mais bon, que vous soyez inquiets ou pas, le vol arrivera là où il doit arriver, hein. Que l'on s'inquiète ou pas, s'il doit tomber, il tombera. Donc, l'inquiétude, dit Jésus, ça ne change rien. On ne peut rien ajouter par l'inquiétude, parce que c'est l'inquiétude est stérile. Okay. Beaucoup aimeraient ajouter à leur vie en mangeant, en s'inquiétant de ce qu'ils mangent, hein, parfois. Hein. On mange bio, on fait très attention, on n'achète pas n'importe quoi, hein, on a peur de tout, on regarde les étiquettes avec tous les E530-26, je ne sais pas combien il y a, tous les trucs, tous les produits qui peuvent, hein, parce qu'on s'inquiète pour sa santé. C'est bien de prendre soin de sa santé. Là, c'est pas une mauvaise chose. Mais si on le fait dans le but vraiment qu'on est, voilà, ça nous tourmente parce qu'on va pouvoir rallonger d'un iota notre vie, Jésus dit non. Il y a des gens qui mangent mal comme pas possible et vivent plus longtemps que ceux qui sont très soignés dans leur nourriture. Hein, ça arrive des fois. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut manger mal. Il faut manger bien, il faut manger sagement. Hein. On peut utiliser des bons produits pour notre santé. C'est utiliser l'intelligence que Dieu nous donne pour faire de bonnes choses. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut manger mal. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand on s'inquiète et que ça devient quelque chose qui crée un débat dans nos pensées, eh bien, ça ne va rien ajouter à la longueur de notre vie, dit le Seigneur Jésus. Et le même passage parallèle dans Luc 12:26 dit « Si donc vous ne pouvez pas la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste ?» C'est-à-dire, on ne peut rien faire de particulier. En fait, ce qui aurait été important, c'est si on avait la capacité de faire quelque chose, vraiment, qui est une action efficace sur le rallongement de la vie ou quelque chose comme ça. Mais Jésus dit qu'on ne peut pas faire la moindre de ces choses. Luc 12:26 dit « Si donc vous ne pouvez pas la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste ?» Donc notre incapacité à faire des choses doit nous conduire à bannir aussi l'inquiétude. L'inquiétude n'ajoutera rien à notre propre incapacité parce qu'elle est stérile. Jésus montre aussi que l'inquiétude traduit un manque de foi en Dieu. Gens de peu de foi, dit-il, hein, au verset 30. Il dit, verset 30, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Et en fait, il montre que le fait de s'inquiéter pour toutes ces choses, c'est que, en réalité, on n'a pas foi, la foi qu'il faut en Dieu. Bien sûr, on a foi, le fait que Dieu nous sauve, qu'il nous sauve de l'enfer, qu'il nous rachète, mais parfois notre foi s'arrête juste au salut. On ne pense pas que Dieu va intervenir dans les détails de notre vie. Oui, pour le salut, ça, on ne peut rien faire, et donc on a besoin de compter uniquement sur le Seigneur. Mais pour ce qui est de la vie pratique, chacun pour soi, on se débrouille comme on peut. Eh bien non, c'est pas ça que Jésus dit ici. Hein. Il dit qu'il peut s'occuper de nous dans les petits détails aussi de notre vie. Il est le Dieu qui nous sauve, mais il est le Dieu qui veut agir aussi en nous dans tous les détails de notre vie. Et nous devons avoir foi dans la capacité de Dieu d'intervenir dans tous les détails de notre vie. Par exemple, lorsque Jésus a envoyé ses disciples en Marc chapitre 13, il leur parle de ce qu'ils vont peut-être subir, des persécutions. Et il dit « Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire. » Je vois déjà que rien que lorsque je prépare un sermon, j'essaie de penser à l'avance de ce que je dois dire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas préparer et puis dire, voilà, on sera en comme quelqu'un m'a dit une fois, il est en freestyle, hein, et puis voilà, l'esprit lui dit ce qu'il doit dire en direct. Voilà. Bon, Dieu nous donne, l'apôtre Paul dit à Timothée, donne-toi ces choses, étudie, hein, travaille. Et donc c'est un travail que l'on doit faire et on doit penser aux choses, bien sûr. Mais Jésus dit ici, parfois, on peut avoir cette attitude qui consiste à se tourmenter. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? S'il me demande ceci, qu'est-ce que je vais répondre, etc. Il dit, ne vous inquiétez pas pour cela. Même quand on vous emmènera pour la persécution, il dit, même dans ce cas extrême, ne vous inquiétez pas d'avance. Il dit, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. Jésus dit que dans ces situations particulières, le Seigneur vous donnera une parole de sagesse. Je ne pense pas qu'Étienne, quand il était traduit devant les tribunaux, il a commencé à dire « qu'est-ce que je vais leur dire ?» etc. Je pense que quand il était sous les coups, eh bien, Dieu lui a donné une parole à dire à l'égard de ces personnes. Mais ça se voit qu'il avait médité sur les textes de l'Ancien Testament avant, parce qu'il cite toute l'histoire du peuple d'Israël. Ce n'est pas quelque chose qui est venu comme ça en une fraction de seconde. C'est quelque chose qu'il a méditer à l'avance, bien entendu. Mais quand il était dans la difficulté particulière face à ces gens, eh bien, je pense que le Seigneur a donné une parole pour qu'il puisse répondre avec sagesse. Et la Bible dit que les membres du Sanhédrin ne pouvaient pas résister à la sagesse d'Étienne. Dieu donne à ce moment ce qu'il faut dans ces conditions particulières et dans ces conditions difficiles. Et même donc dans ces cas, il appelle ses disciples à avoir la foi, à ne pas manquer de foi en s'inquiétant. Parce que l'inquiétude, je le dis, traduit un manque de foi en Dieu. Et puis, l'inquiétude est une marque distinctive du païen aussi, de celui qui ne connaît pas Dieu. Regardez au verset 31 déjà, il dit « Ne vous inquiétez point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. » Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Autrement dit, l'inquiétude est un signe distinctif de celui qui ne connaît pas Dieu. Et donc Jésus dit à ses disciples, ne vous inquiétez pas, ça c'est ressembler à ceux qui ne connaissent pas Dieu. De même, quand il avait parlé de la prière, il avait dit, ne me répétez pas de vaines paroles comme le font les païens. Hein, d'accord ? Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ont leur méthode, ils ont leur type d'émotion favorite, si vous voulez. Mais celui qui connaît Dieu a confiance en Dieu, il ne se conduit pas de cette manière. Donc une différence doit exister entre le disciple de Christ et le païen. Et chaque fois donc que l'enfant de Dieu s'inquiète de la manière décrite ici, eh bien il agit non pas en enfant de Dieu, mais il agit en païen. Et il ne peut donc pas être un bon témoignage. Imaginez, vous êtes dans des situations particulières, et puis vous inquiétez comme tout le monde, c'est la panique, tout. Et alors que vous connaissez le Seigneur, peut-être là, c'est l'occasion de montrer la sérénité et la paix que Dieu donne, la confiance que l'on a dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais si on est dans, voilà, ça peut, voilà, dans la confusion comme tous les autres, eh bien, on rate peut-être dans certaines situations l'occasion d'être un bon témoignage. Je suppose que l'apôtre Paul, sur le bateau, quand il a fait naufrage, avec tous ces gens qui étaient affolés, ils voyaient leur mort arriver. Et lui, il a dit, ne vous inquiétez pas, le Dieu que je sers m'a dit qu'il n'y aura de perte que celle du navire. Il y avait cette confiance, d'accord, qu'il est même une telle confiance qu'il est venu à prendre les commandes à la place du capitaine. Hein. Donc, vous voyez, il a pu être un témoignage pour ces personnes dans cette situation. Et souvent, vous voyez, le calme et la confiance que nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ peut être un bon témoignage auprès de ceux qui sont tourmentés par l'inquiétude. Mais si nous sommes aussi, comme les païens, tourmentés, eh bien, nous passons à côté de ce témoignage que nous pouvons être ici. Et puis aussi, on pourrait dire que l'inquiétude est un obstacle à la pénétration de la parole. Ça n'est pas dit dans ce texte ici, mais dans un autre texte. Par exemple, dans Matthieu chapitre 13, lorsque Jésus parle des terrains, il parle de différents terrains, puis il parle du terrain qui avait reçu la semence du cœur qui avait reçu la semence parmi les épines. Vous vous rappelez de cela? Il dit, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis, et c'est le même mot que les inquiétudes, soucis ici, en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Vous voyez? Donc ici, on a l'inquiétude que l'on peut développer dans notre vie chrétienne, peut-être un obstacle à la pénétration et au fait que la parole de Dieu produise du fruit en nous. Et donc les soucis rendent, on peut le dire, difficile cette production de fruits spirituels. Et on peut prendre une illustration dans Exode chapitre 6. Regardez Exode chapitre 6 avec moi, versets 6 et 9. Lorsque Dieu envoie Moïse pour parler au peuple d'Israël, et puis pour leur dire qu'il va les délivrer, qu'il a entendu leurs cris, leurs gémissements, et qu'il vient pour les délivrer. Exode chapitre 6, et à partir du verset 6. Exode 6, et à partir du verset 6. Donc Dieu dit à Moïse, « C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, « Je suis l'Éternel, Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Je vous sauverai à bras étendus et par grand jugement. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchis des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Vous voyez, parfois on peut être dans une disposition de cœur telle que de soucis, d'angoisse, d'anxiété, d'inquiétude, que même, c'est quand même impressionnant ce que Dieu dit ici, comme délivrance qu'il va amener à ce peuple, avec quelle puissance il va le délivrer. Il dit tout ce qu'il va faire, tout ce que Dieu va faire à l'égard de ce peuple. Mais le texte termine en disant, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Et parfois, cette angoisse, ces situations, l'inquiétude que l'on peut avoir dans le cœur deviennent des obstacles à la pénétration de la parole de Dieu dans notre vie. Donc quand on est en proie à l'inquiétude, notre cœur devient souvent insensible à la parole de Dieu. Et puis, troisièmement, je termine avec ce troisième point, en disant que le Seigneur Jésus appelle ses disciples aussi à... à s'inquiéter pour, on pourrait dire, les bonnes choses. Donc, il montre ici la vérité sur la responsabilité du disciple. Premièrement, il doit bannir l'inquiétude. Il dit, ne vous inquiétez pas. On a dit, cela vient plusieurs fois. Et la Bible nous encourage à ne pas vraiment nous inquiéter. 1 Pierre chapitre 5, verset 7 nous dit que nous devons nous décharger sur Dieu de tous nos soucis, car lui-même prend soin, lui-même s'inquiète, si vous voulez, de la bonne manière de nous. Donc nous pouvons nous décharger sur lui. Notre responsabilité, c'est de bannir vraiment l'inquiétude de notre cœur. L'apôtre Paul, parlant aux Philippiens, dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications. » Par des actions de grâce, comme il dit, et la paix de Christ qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, ni pour la nourriture, ni pour le vêtement, ni pour le travail, ni pour comment je vais payer la facture à la fin du mois. Il faudra la payer, bien sûr, Dieu le sait, toutes ces choses. Il dit ne vous inquiétez pas. Il ne dit pas d'être insouciant, il ne dit pas de ne pas travailler, il ne dit pas de ne pas épargner, il dit de ne pas laisser notre pensée, notre cœur être envahi de confusion à l'égard de ces choses au point d'être tiraillé à droite et à gauche et d'oublier que nous avons Dieu qui est notre Père. Donc on ne s'inquiète, l'apôtre Paul dit, de rien. Il dit, mais on fait connaître à Dieu nos besoins. On lui dit quels sont les besoins de notre cœur. Et il nous donnera, qu'est-ce qu'il nous donne ? Sa paix. Vous voyez ici, ce que l'inquiétude a besoin, c'est de la paix dans le cœur. Quand on bannit l'inquiétude, c'est pour avoir cette paix de Christ qui garde nos cœurs et nos pensées. Et elle surpasse toute intelligence, tout débat que je peux avoir sur les choses ne pourra pas m'amener de sécurité. Seule la paix de Christ, quand elle envahit mon cœur, quand je sais que je peux faire confiance à mon Seigneur, il s'est donné lui-même pour moi, Dieu qui a livré son Fils, me donnera aussi toutes choses par lui, que notre Père Céleste, celui qui est dans les cieux, sait de quoi nous avons besoin. Il nourrit les oiseaux, il habille l'herbe des champs, il fait ça pour les plus petits de ces créatures, il peut le faire aussi pour moi. Je suis précieux à ses yeux, parce qu'il me destine à la vie éternelle. Ces choses doivent m'apporter la paix dans mon cœur et m'aider à vivre une vie de quiétude en Jésus-Christ. Et puis, notez que Jésus dit, verset 33, quelle est la responsabilité du disciple ? Premièrement, donc, on a dit bannir l'inquiétude, mais aussi rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Placer les bonnes priorités. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ce qui doit nous préoccuper, ce qui doit nous inquiéter, ce
après quoi on doit courir.
C'est le royaume et la justice de Dieu. Vivre une vie de piété, chercher les choses qui concernent Dieu, être préoccupé par les intérêts de Dieu, par les choses célestes. L'apôtre Paul disait cela aux Colossiens, il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc le chrétien doit premièrement être préoccupé par les choses qui concernent Dieu, l'avancée du royaume de Dieu, le prix des âmes, mon édification spirituelle, la croissance de l'Église, partager son amour les uns avec les autres, participer à l'édification des uns des autres. C'est dans ces choses qu'il doit être investi. Ce sont ces choses qu'il doit chercher premièrement. Et Jésus dit une promesse ici, et toutes ces choses, c'est-à-dire les autres choses, vous seront données par-dessus. Dieu va vous donner par-dessus tout cela ce dont vous avez besoin. Il ne manquera pas de vous donner ce dont vous avez besoin. Mais votre première responsabilité en tant que chrétien, c'est de vous focaliser sur les choses qui concernent l'Évangile, qui concernent Dieu, qui concernent la justice de Dieu, le fait d'avoir une justice qui surpasse celle des pharisiens, le fait de pratiquer une justice qui convienne selon ce que Dieu nous commande ici. Le psaume 37, verset 4 dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » C'est un peu la même pensée. Voilà, tu fais tes délices des choses qui concernent Dieu. Tu es préoccupé par ces choses et Dieu va te donner. Les désirs de ton cœur seront transformés à un point tel que Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Parce que si tu fais de l'Éternel tes délices, eh bien les désirs de ton cœur seront selon la volonté de Dieu et pas contraire à la volonté de Dieu. Dans le passage parallèle de ce texte de Matthieu chapitre 6, dans Luc chapitre 12, le texte, l'évangéliste Luc ajoute ceci, après que Jésus dit « Cherchez plutôt le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Et il dit « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Il dit « Voilà, pourquoi vous allez vous inquiéter ? Dieu a trouvé bon de vous donner le royaume. De quoi avez-vous encore besoin ? Il prendra soin de vous. » Quelques mots de conclusion ici. Dans ce passage, on voit que l'inquiétude vraiment déshonore Dieu. Le chrétien inquiet déshonore Dieu. Et cela est perceptible avec la force du commandement que Jésus donne ici. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi vous inquiétez-vous ? Ne vous inquiétez donc point du lendemain, ici. Et il met cela en rapport avec les réalités sur Dieu. Donc il montre que l'inquiétude déshonore profondément Dieu. S'inquiéter, c'est manifester que Dieu n'est pas capable d'intervenir dans les domaines primaires de notre existence, comme la nourriture, le vêtement, le logement. Et donc l'inquiétude et la foi en Dieu sont incompatibles. Celui qui s'inquiète ne croit pas en Dieu. C'est ce qui est dit ici en substance. Et la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et celui qui s'inquiète n'exerce pas la foi en Dieu. Donc, en tant que chrétiens, nous sommes interpellés là-dessus. Deuxièmement, il faut voir que l'importance vitale d'une chose ne suffit pas à faire de cette chose l'objet de mes préoccupations. C'est important, la nourriture. C'est important, le vêtement. Jésus ne dit pas que ce n'est pas important. Il dit même que Dieu va vous les donner, ces choses. C'est important, c'est vital même. Mais le fait que quelque chose est vital ne nous autorise pas à faire de ces choses l'objet de nos préoccupations. Ainsi donc, la nourriture et les vêtements, et les choses, les biens matériels, ne doivent pas être l'objet de nos recherches acharnées. On ne doit pas nous inquiéter pour ces choses, au point qu'elles nous préoccupent au plus haut point, même si ces choses sont des choses vitales. Et puis, le Seigneur exige de ses disciples, je crois, l'obéissance dans ce domaine. Ce qui est écrit ici, c'est pour que nous puissions obéir ici. Par trois fois, Jésus dit de ne pas s'inquiéter. Donc, il appelle, si vous voulez, ses disciples à l'obéissance en étant préoccupés du royaume de Dieu et de sa justice, et puis aussi en ayant recours au Seigneur pour tout ce dont nous avons besoin. C'est un appel à faire confiance vraiment à Dieu pour tout ce dont nous avons besoin. Et le chrétien doit faire confiance au Seigneur pour tout ce dont il a besoin. Celui qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, a besoin premièrement de le connaître. Il sera dans l'inquiétude. Les promesses qui sont ici sont pour ceux qui appartiennent aux enfants de Dieu. Quand il dit « Ne vous inquiétez pas, votre Père céleste sait que vous avez besoin », il parle de ceux dont Dieu est le Père céleste. Et donc, la première chose ici importante pour ceux qui écoutent ces paroles, si vous êtes dans ce cas ce matin, c'est que vous puissiez connaître à ce Seigneur, que vous deveniez des citoyens de ce royaume que Jésus décrit ici. Et comment est-ce qu'on le devient? Eh bien, par la foi en Jésus-Christ seul. Il a donné sa vie, il a offert sa vie en sacrifice pour que vous puissiez, en l'acceptant, le recevant, avoir la vie éternelle. Eh bien, en venant à lui, en reconnaissant votre péché, que cette mort est une mort à cause de votre... La mort de Christ est une mort à cause de votre péché, en vous confiant en Jésus-Christ. Eh bien, il dit que vous pouvez avoir la vie éternelle et faire partie de son royaume. Si vous êtes là ce matin, ça n'est pas un hasard. Si vous pouvez entendre l'évangile ce matin, ça n'est pas un hasard. Et si Dieu parle à vos cœurs, eh bien, venez à lui. C'est la seule chose, la première et la plus importante chose que vous ayez à faire aujourd'hui, c'est de venir à Christ dans la foi, de le recevoir et de lui demander le pardon pour vos péchés. Mais si nous sommes au Seigneur, bien, nous péchons lorsque nous nous inquiétons. Jésus dit que c'est un péché, il faut le reconnaître. Ce n'est pas moi qui le dis, chers frères et sœurs, c'est Jésus qui le dit. Et on doit abolir absolument l'inquiétude de notre cœur. Cherchez d'abord, on dit, le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous avons un Dieu qui s'occupe des choses les plus élémentaires de sa création. Il peut s'occuper de nous. Nous avons un Dieu que nous pouvons appeler notre Père parce que par son esprit qui vit en nous, nous lui appartenons. Nous pouvons l'appeler Abba Père. Nous avons un Dieu qui donne la vie, qui fait ce qui est le plus compliqué. Il peut faire aussi ce qui est le plus simple, de maintenir cette vie pour nous, de nous donner ce dont nous avons besoin pour cette vie. Nous voyons tout ce que Jésus dit de l'inquiétude et combien c'est stérile, combien l'inquiétude traduit un manque de foi en Dieu, combien l'inquiétude nous pousse à chercher dans les choses matérielles notre réconfort. Cette inquiétude est un obstacle, même aussi, on l'a vu, à la pénétration de la parole de Dieu, au fait que cette parole puisse porter du fruit en nous. Eh bien, faisons ce que le Seigneur nous dit. Rejetons l'inquiétude et confions-nous profondément en lui. Il est digne de confiance. Celui qui a fait le plus, il peut faire, on pourrait dire, le moins dans notre vie. Le moins, c'est beaucoup pour nous, mais je veux dire, il a fait de grandes choses, de magnifiques choses, et donc il peut intervenir dans les moindres détails de notre vie. Je termine en disant que quand nous adorons le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes toujours encouragés à l'adorer pour sa grandeur, pour sa majesté, pour, on a chanté ce matin, sa fidélité. Toutes ces choses que nous chantons sur la grandeur de Dieu, ce n'est pas pour le maintenir juste dans sa sphère, dans sa tour d'ivoire, mais c'est pour saisir aussi que ce Dieu qui est si grand, il est tellement grand qu'il peut intervenir dans les petits détails de notre vie. C'est le fait de louer sa grandeur nous pousse à saisir qu'il peut aussi intervenir dans les petits détails de notre vie. Que le Seigneur nous aide à ne pas nous inquiéter. Prions. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous réconforte et nous devons confesser que nous sommes bien souvent enclins à l'inquiétude, que ce soit pour nos situations particulières que nous vivons, pour dans notre travail, dans l'avenir, après le travail, dans nos relations même les unes avec les autres. Et nous te prions, Seigneur, de nous donner un cœur qui se confie pleinement en toi. Aide-nous à nous abandonner à toi, à te faire confiance dans tous les domaines de notre vie. À croire que le Dieu qui nous sauve de nos péchés peut aussi nous sauver des situations difficiles, délicates de notre vie quotidienne. Seigneur, donne-nous cette confiance qui t'honore, témoigne de ta grandeur, de ta puissance. Garde nos cœurs et nos pensées en toi. Amen.